Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, je suis avec Filippo Furi, tu es anthropologue et co-auteur du livre « Relier les rives sur les traces des morts en Méditerranée » aux éditions La Découverte, et donc tu l'as écrit avec Carolina Kobelinski.
Tout à fait, bonsoir.
Bonsoir. Et je suis aussi avec Karine Gatelier, donc tu es également anthropologue. Et tu es chargée d'action recherche sur la migration et les modalités de la présence des étrangers dans la société française.
Exactement, bonsoir.
Et on est aussi avec Christina, donc tu es géographe, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bonsoir.
Pour commencer, Filippo Furi, toi tu vas intervenir ce soir à la librairie Les Modernes. Donc, dans le cadre des 8e rencontres des géopolitiques critiques qui sont organisées par l'association Modus Operandi. Donc, Karine, toi, tu es salariée, c'est ça? Donc, est-ce que tu peux commencer peut-être un peu par nous présenter cette association et ses principaux objectifs?
Alors, Modus Operandi a été créé à Grenoble en 2006 avec pour objectif de travailler la question du conflit et de la violence, des différentes formes de violence. Donc, dans un premier temps, l'objectif de l'association était de diffuser, de faire connaître une approche constructive du conflit, parce que celle-ci était documentée en anglais principalement, voire uniquement. Et donc, on a produit des supports en français pour la rendre accessible à un public francophone. Donc, ces supports étaient à la fois des cours en ligne sur une plateforme de cours en ligne. On enseigne à l'UGA aussi sur cette approche. On a écrit des articles et un livre. Et dans un second temps, on s'est approprié cette approche pour la mettre en pratique sur des terrains de recherche ici localement à Grenoble, à travers aussi une méthode d'action recherche. Donc, pour faire de la recherche sur des situations conflictuelles et des situations de violence structurelle.
Oui, et donc vous organisez aussi chaque année les rencontres de géopolitique critique. Donc question peut-être qui peut sembler très basique pour vous, mais pas forcément pour tout le monde. Qu'est-ce qui différencie la géopolitique critique de la géopolitique plus classique?
Alors, ce courant critique de la géopolitique, en effet, nous a intéressés parce qu'il questionne et il remet en cause et il élargit en réalité le champ de la géopolitique. La géopolitique, donc, c'est une approche qui étudie les rapports de pouvoir et très souvent entre des acteurs qui sont des États ou des acteurs parfois infra-étatiques, par exemple des réseaux mafieux, des réseaux terroristes. Le courant de la géopolitique critique élargit encore plus, pas seulement en diversifiant les acteurs, mais en diversifiant aussi les échelles. Donc on quitte vraiment cette échelle de l'inter-étatique pour redescendre à des échelles bien inférieures, comme par exemple des espaces intimes, pour descendre par exemple jusqu'à l'espace du foyer, et qui permet du coup d'analyser les rapports de pouvoir et les violences conjugales, les violences familiales, jusqu'à l'échelle du foyer. Donc c'est par exemple une des approches de ce courant critique qui nous a intéressés, pourquoi on s'en est saisi. Et alors on s'en est pas saisi seul, parce qu'en créant les rencontres de géopolitique critique, en fait Modus Operandi l'a fait avec le laboratoire Pacte de l'UGA. Voilà, c'est une co-création.
Ok, donc une pratique qui va bien plus dans la précision, si je puis dire. Et donc cette année, ces rencontres de géopolitique critique, elles sont sur le thème « Cultiver l'accueil, résistance quotidienne et horizon politique ». Donc pourquoi ce thème cette année?
Donc tu l'as dit, hein, à Modup, on travaille beaucoup sur la question de la migration et on a un programme depuis plusieurs années qui s'appelle « Pour une société de l'accueil » où on questionne justement ce que pourrait être une société qui accueille. Et en réalité, cet accueil déborde la question migratoire aussi. Il ne s'agit pas d'accueillir uniquement les personnes en migration, les personnes exilées, mais pose aussi la question. Alors, par exemple, on travaille sur le territoire du Trièves depuis 2 ans. Et l'accueil fait conflit dans la société en général, sur ce territoire du Trièves aussi. Et il fait conflit pas seulement dans l'accueil des personnes exilées, mais aussi d'autres personnes, par exemple ceux qu'on appelle les néo-ruraux, ceux qui veulent quitter les villes pour plutôt s'installer à la campagne. Voilà, à différentes étapes de leur vie, parce que par exemple il y a pas mal de retraités aussi qui vont s'installer à la campagne. Et voilà, donc cette société de l'accueil réfléchit et analyse ce conflit de l'accueil pour comprendre quelles conditions il faudrait créer pour organiser de l'accueil. Voilà, et dans le contexte politique actuel, aujourd'hui c'est une réelle résistance. Puisqu'on voit qu'au niveau de l'État, mais parfois au niveau local aussi, les politiques sont plutôt des politiques de non-accueil, des politiques de rejet.
Oui, bah, j'allais y venir avec ma prochaine question. Je voulais demander justement en quoi cultiver l'accueil, ça peut être considéré comme une forme de résistance face à ces systèmes politiques.
C'est le contexte politique actuel qui fait que organiser de l'accueil, pratiquer de l'accueil au quotidien revêt complètement une dimension politique parce que ça s'inscrit en opposition, si ce n'est en résistance des politiques d'aujourd'hui. Quand le cadre juridique, que ce soit l'adoption de nouvelles lois ou l'adoption de circulaires, organise en fait, l'impossible installation des gens, voire l'impossible arrivée des gens sur notre territoire, participer à cet accueil-là s'oppose très clairement à ce cadre politique. Donc, par exemple, on fait dans les rencontres se rencontrer des gens qui appartiennent à des collectifs citoyens d'accueil et d'hébergement de personnes exilées pour partager sur leurs pratiques et donc chercher à se renforcer aussi dans ces pratiques, parce que, à nouveau, compte tenu de ce contexte politique, la question est celle de durée. Comment envisager nos pratiques sur le moyen long terme, parce qu'on comprend qu'il va falloir durer, donc résister. Et c'est en cela qu'on a sous-titré également avec cette idée d'horizon politique, parce qu'alors on propose complètement une autre visée politique pour cette société, à l'échelle de cette société.
Oui, et donc pour mettre en lumière toutes ces idées, vous avez choisi des invités et de faire des événements pour ces rencontres géopolitiques critiques. Donc justement, comment vous avez choisi tous ces invités et qui ils sont peut-être aussi? Il y a Philippe Ofuri notamment.
Les rencontres chaque année sont une co-organisation, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, on choisit un thème et on écrit un court texte pour décrire ce thème, pour expliquer un petit peu comment nous, on le comprend et on a envie de le développer. Et on invite aussi largement que possible des gens, des organisations à faire des propositions. Donc on commence l'organisation des rencontres par un certain nombre de réunions. Où on échange et où on entend la lecture par différents acteurs de cette thématique. Et c'est comme ça qu'on commence à organiser le programme. Et ensuite, nous aussi, dans notre réseau, effectivement, on a envie d'inviter certaines personnes. Donc, on travaille avec Philippe depuis plusieurs années. Je ne sais pas, je ne vais pas compter. Mais par exemple, Philippe travaille avec nous aussi dans le Trièves. Son livre venait de sortir, donc l'occasion était trop belle de l'inviter à en parler. Et avec Christina, on travaille depuis encore plus longtemps sur ces questions-là aussi. Et puis l'accueil, c'est vraiment quelque chose qui nous lie dans nos travaux respectifs. Donc c'était très facile de faire du lien, de les inviter et de penser des événements ensemble.
Et donc, au-delà de toutes ces discussions théoriques, est-ce que vous avez vu des types d'actions concrètes que les rencontres, elles ont inspirées chez les participants? Est-ce qu'ils sont repartis en voulant faire des actions concrètes? Oui.
Alors, les rencontres ne sont pas complètement terminées. Peut-être je prendrai l'exemple de l'événement qui a ouvert le programme la semaine dernière avec cette performance cartographiée qui était proposée par deux universitaires, Karen Akoka, donc qui est sociologue à Paris-Nanterre, et Philippe Rekachevitch, qui est géographe et cartographe dans une université hollandaise affiliée à Amsterdam. Mais j'oublie toujours son nom. Christina aussi, donc on va en rester là. Et donc, ils font une performance sur scène qui a pour objectif de déconstruire les idées reçues sur les migrations. Ce que ça a produit, c'est beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de personnes qui aujourd'hui me demandent leur contact parce qu'ils veulent les inviter chez eux à reproduire leur performance. Donc c'est super si des objets comme ça, effectivement, se démultiplient et sont vus par le plus grand nombre de gens. Et dans les jours qui viennent, donc vendredi 28 mars, on a toute une journée consacrée à écrire collectivement un plaidoyer pour l'accueil. Donc là, on s'inscrit complètement dans le calendrier électoral des municipales l'an prochain en 2026. Et on invite alors différents acteurs de l'accueil, donc les collectifs citoyens dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des associations, des réseaux régionaux qui s'unissent pour faire de l'accueil. Et on termine la soirée, la journée avec une soirée publique où on invite des élus locaux, municipaux, soit pour présenter des choses qu'ils ont faites sur le territoire de leur commune, soit pour échanger justement sur toutes les idées qu'on aura construites ensemble dans la journée et essayer de porter collectivement, d'imaginer des alliances et des stratégies pour porter collectivement ces idées-là. Donc ça, c'est un résultat qu'on espère. Et on parlera aussi peut-être de la soirée de dimanche soir où interviendra Christina.
Oui, tout à fait, on pourra en parler plus tard. Et donc, on a parlé beaucoup d'accueil, enfin, tu as beaucoup dit ce mot, alors je voulais quand même vous demander, vous, qu'est-ce qui vous évoque peut-être ce terme ?
Oh, l'accueil. Alors moi, j'avais commencé à travailler sur la question d'hospitalité, sur les villes au niveau local. Et ça, c'est ce qui nous a mis en contact avec Modop, avec Karine, avec Christine, avec plein d'autres collègues. Et avec les mondes de la société civile aussi qui travaillent au niveau local sur les politiques justement entre hospitalité et accueil dans tout ce qui est un peu à la fois les lexiques de l'accueil de l'autre et plus en général sur la création de contextes de cohabitation solidaire, disons ça. Donc, la question de l'accueil, genre, je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une question d'ouverture à l'altérité. Quoi. L'altérité, que ça peut être l'étranger, c'est lui qui vient d'ailleurs, c'est lui qui transite, c'est lui qui a énormément de déclinaisons. Mais l'idée, pour moi, c'est une approche éthique et politique d'ouverture à l'autre. Quoi. Et de sortir un peu de tous les délires identitaires et nationalistes ou hyper-localistes qui par peur, par ignorance, etc., a tendance à exclure et à mettre des barrières vis-à-vis de l'autre.
Alors justement, l'accueil, c'est un des thèmes qui est évoqué dans ton livre, Philippot. Mais avant d'en parler, je vous laisse d'abord sur une pause musicale.
Première note que j'ai jouée, à vous sa majesté la mer, aux vagues venues se briser, depuis l'autre bout de la terre. J'aurais mille questions à poser, vous qui avez croisé les hivers, qui ne sont pas encore arrivés, du côté de mon hémisphère. Du côté de mon hémisphère. Prochaine note que je jouerai, à vous sa majesté la mer, aux voix qui viendront m'enlever le dernier petit goût amer que j'aurai au fond du gosier. Quand je dirai adieu à ma mère, j'aurai mille questions à poser, ou qui avait parlé aux rivières, qui avait roulé tant de rochers, écumé tant de misère. Tant de noyés, des enfants qui fuyaient la guerre, que des salauds avaient armés pour faire fleurir leurs petites affaires. J'aurais mille questions à poser, à vous sa majesté la mer, devant autant d'absurdité et au nom du grand univers. Ne pourriez-vous pas pour une fois couler ces yachts de milliardaires plutôt que ces petits radeaux en bois? Ou entasser rêve mes frères, plus plutôt que ces petits radeaux en bois ou entasser même mes frères. Dernière note que je jouerai, à vous sa majesté la mer, à ma dernière tasse d'eau salée, à ma dernière bouffée d'air, à la vague qui aura raison de mon envie de résister, et au nom du grand univers, devant autant d'absurdité, je voudrais retrouver la paix, et pour finir me laisser faire, je voudrais retrouver la paix. Et pour finir vous laisser faire, et enfin me laisser aller, à vos bras majesté la mer, et enfin me laisser couler, sans papier majesté la mer.
C'était Sa Majesté la Mère de Zoufris Maracas et vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 avec Christina, Filippo et Karine pour les rencontres de géopolitique critique cette année sur le thème « Cultiver l'accueil, résistance quotidienne et horizon politique ». Alors, ce terme d'accueil, quand on y pense la première fois, ça nous évoque plutôt l'accueil de personnes vivantes. Mais donc, Filippo, toi, ton livre, il parle de personnes décédées en Méditerranée. Donc, je voulais te demander quel accueil est réservé justement à ces personnes qui sont décédées finalement.
Je pense que les liens est intéressant. C'est-à-dire que moi, comme je te disais, je travaillais beaucoup sur les villes accueillantes et les lieux d'accueil pour les personnes vivantes, les nouveaux arrivants, les exilés qui arrivent sur un territoire, et Caroline aussi. Avec Caroline, on s'est connus depuis 20 ans, et tous les deux, on travaillait sur le centre d'accueil et tous ces processus. Et nos trajectoires ont bifurqué, on s'est retrouvés à travailler sur ça à un moment donné. Il y a eu un projet de Babel qui était coordonné par Michel Agier. Et sur ça, on a convergé. Moi, j'avais déjà commencé à travailler sur la question de la, disons, des soutiens en famille des personnes disparues ou décédées en migration, avec des organisations de la société civile. Et on s'est retrouvé avec Caroline à vouloir problématiser aussi cette question, et donc de penser comment une société reçoit, accueille, fait de la place aux autres. Et pas que aux vivants. Donc, on a commencé à s'intéresser notamment à la ville de Catania, parce que la ville de Catania a été intéressée par l'arrivée pendant 2014 jusqu'en 2018 d'un nombre très important de personnes décédées en mer et débarquées dans la ville de Catania. Et donc, comment la ville a commencé à prendre en charge, ville comme institution et ville comme collectivité de personnes, d'habitants, a commencé à prendre en charge, à gérer cette présence. Et ça nous a amené à faire un travail d'ethnographie à ce niveau-là.
Et donc, justement, pourquoi avoir choisi de vous concentrer sur la Méditerranée ? Parce qu'il y a différents types de territoires où il peut y avoir des décès. On peut aussi penser à la montagne, par exemple. Donc, pourquoi avoir choisi la mer ? C'est peut-être parce que c'est l'endroit où il y a le plus de décès. Mais...
Il y a une dimension... quantitative, effectivement, parce qu'il y avait déjà, à partir des années 90, des acteurs de la société civile, des chercheurs, etc., des journalistes qui avaient commencé à noter ces événements, donc à compter d'une certaine manière les décès. Donc c'est devenu quelque chose qui a eu de la visibilité. Personnellement, moi, j'étais impliqué dans des mobilisations après le printemps arabe, donc en 2000, en suivant surtout les mobilisations des familles tunisiennes qui cherchaient des personnes, des proches disparus en Méditerranée centrale, 2009, 2010, 2011. Après, on a eu les naufrages de Lampedusa. Et après, on a eu le naufrage en 2015 du bateau du 18 avril 2015. Et c'est là que nous avons décidé de nous occuper de ça parce qu'il y a eu une convergence des faits, des situations qui ont fait que c'était nécessaire de commencer à travailler sur ça parce qu'il y avait un dispositif étatique qui s'était mis en place, parce qu'il y avait une mobilisation des familles, parce qu'il y avait toute une série de choses qui nous ont poussé à nous intéresser à cette situation spécifique. En même temps, avec des collègues, on travaillait sur l'Égée, on travaillait sur l'Evros, donc la frontière turco-grecque. On travaillait déjà avec d'autres collègues. Moi, je fais partie d'un réseau comme Christina d'ailleurs, qui s'appelle Migreurope, qui s'occupe des analyses des politiques migratoires européennes et la conséquence de l'analyse des politiques du border régime européen nous a poussé aussi à nous intéresser à cette question des victimes, donc des personnes qui décèdent en essayant de traverser ces frontières. Donc aussi, on travaillait sur la route des Canaries et on a commencé à s'intéresser à ce qui se passait à Calais. Donc c'est-à-dire que ce cas, c'est un cas un peu paradigmatique, un peu central dans tout un panorama géopolitique, effectivement. Mais avec Christine, on a commencé à travailler. Moi, j'ai travaillé aussi sur Vintimille. On a commencé à travailler sur les morts dans les Alpes. Il y a des collègues qui commencent à travailler sur les déserts du Sahara. Donc, ça, c'est un puzzle d'activistes et de chercheurs qui commencent à travailler la question à différents endroits avec la même perspective critique.
Oui, donc il y a différents chercheurs qui sont un peu basés sur chaque territoire, si on peut simplifier. Toi, ton livre, il suit une enquête justement qui est faite par un groupe de volontaires de la Croix-Rouge, donc de la ville de Catane, en Sicile. Toi, tu les as accompagnés dans ce travail d'identification des morts en Méditerranée. Donc, je voulais demander comment se déroule la recherche vers ces identités, parce qu'ils ne les connaissent pas. Et donc, comment ils arrivent à trouver ces informations, par quel procédé un petit peu?
C'est intéressant parce que le procédé a été un peu bricolé. On a un peu inventé quelque chose en suivant aussi des intuitions d'autres chercheurs. Donc, il y a le Comité international de la Croix-Rouge qui avait mis en place une approche qui s'appelle « reverse tracing ». Il faut que j'explique qu'est-ce que c'est le tracing d'abord, c'est-à-dire que la logique normale veut qu'une famille à la recherche d'un proche s'adresse aux autorités, s'adresse à la Croix-Rouge, etc., pour chercher quelqu'un qui a disparu. On le cherche dans un cadre de conflit, on le cherche dans un cadre de migration, et on le cherche vivant à la base. On commence à les chercher vivants, c'est-à-dire qu'on commence à les chercher en prison, on commence à chercher ses traces pour pouvoir reconnecter. Il y a un service à la Croix-Rouge qui s'appelle Restoring Family Links, c'est-à-dire relier les liens familiaux. Il s'avère que dans la Méditerranée centrale, beaucoup de personnes disparaissent ou décèdent, donc il y a eu une espèce de switch de ce processus. Mais en même temps, on s'est rendu compte que les dispositifs de gestion des corps au niveau local, et les cas de Catane, mais il y en a dans tous les autres cas qu'on a examinés avec d'autres collègues, c'est un peu la même chose. Souvent, le traitement du corps est assez expéditif. Il n'y a pas une recherche, il n'y a pas une volonté, il n'y a pas une nécessité. C'est-à-dire que les procureurs qui enquêtent sur les naufrages n'ont pas un mandat explicite d'identification, donc les corps sont enterrés sous X. Donc on s'est posé la question en disant probablement il faut partir des informations qu'on a, qu'on peut collecter sur les victimes et aller chercher les familles. Donc c'est reverse tracing dont je parlais. Ce qui a fait que le travail qu'on a mené, c'était plutôt un travail d'archives, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler sur les corps qui étaient arrivés à Catane, dont on avait collecté des informations, mais de manière très dispersée. C'est-à-dire chaque acteur impliqué collectait ou produisait des informations qui étaient gérées de manière indépendante.
Oui, donc ça peut être les familles, enfin les informations, elles peuvent venir de différentes sources.
Les informations arrivent de différentes sources, mais là on parle carrément des informations biométriques liées au corps, sans avoir la famille. La famille arrive dans un deuxième temps, là on parle vraiment du corps. Sauf que vous avez des médecins légistes, vous avez la police, vous avez tout un tas d'éléments et d'acteurs qui produisent des informations. Ces informations étaient déconnectées. Donc le travail qui a été fait technique, c'est-à-dire que le travail sur l'accueil, c'est quelque chose c'est une conséquence d'un travail qui était d'abord très technique. Et l'idée, c'était de collecter et mettre ensemble, faire parler toutes ces informations. Donc on a construit une proto-base de données, genre une idée des bases de données, c'est-à-dire un énorme tableau dans lequel on collecte toutes les informations de tous les acteurs qui les produisent et on les met ensemble. Pour faire cela, la Croix-Rouge a fait des protocoles d'entente avec les procureurs, avec la police, avec la mairie, etc., tous les acteurs locaux qui étaient impliqués, qui ont partagé les informations, et ça nous a permis de ne pas identifier les personnes décédées qui arrivaient à Catania immédiatement, mais de faire un travail un peu archéologique, si tu veux, donc à rebours, en arrière, sur les cas qui avaient été déjà traités, donc gérés, mais démontrer comment déjà les dispositifs avaient toutes les informations pour pouvoir faire les identifications et que les identifications n'avaient pas été faites par négligence, par défaut du système, etc. Donc ça, c'était un peu l'objectif primaire qui était le technique de ce travail.
Ok, et donc une fois que vous avez récolté toutes ces données, est-ce que vous les transmettez ensuite Enfin, vous travaillez aussi avec les autorités locales et nationales de la France, par exemple, pour...
Dans ce cas-là, non, pas vraiment de la France, mais on était en contact avec des familles qui étaient en France. J'ai un exemple du livre, effectivement, raconte l'histoire d'un père qui réside en France, qui, grâce au travail qu'on a fait, a pu venir confirmer l'identification de son fils qui était décédé à Catania, donc qui était enterré donc à Catania suite à un naufrage en Méditerranée. Et donc, ça a permis au père de ce garçon de demander la prise en charge, d'avoir l'autorité parentale vis-à-vis des enfants de son fils, et du coup de pouvoir demander une recoupement familial vers la France. Donc il y a une dimension transnationale qui part de là. Après, si tu veux, les liens qu'on a avec les familles, c'est surtout avec des familles qui sont de l'autre côté. D'où le titre un peu de Relier les rives. C'est-à-dire que le point de départ du texte, c'est... on est au milieu, donc cette collectivité de Catania, cette ville de Catania, ce groupe de la Croix-Rouge se trouve au milieu entre deux tensions, c'est-à-dire d'un côté on a des familles sans proches qui cherchent quelqu'un qui a disparu et qui viennent vers l'Europe pour chercher des informations, et de l'autre côté on a des corps sans nom. Et donc cette idée, c'était de relier les rives géographiquement de la Méditerranée, mais aussi relier ces deux points.
Oui, et donc justement, sur ces personnes qui enquêtent peut-être pendant des mois sur certaines personnes, je voulais justement demander quel lien relationnel elles entretiennent finalement avec ces personnes sur qui... elles enquêtent.
Mais là on vient à la dimension de l'accueil, effectivement. L'enquête, c'est une enquête, c'est une recherche. Il y a cette dimension, c'est-à-dire qu'il y a une dimension effectivement de recherche, c'est qu'on cherche des informations, on cherche de collecter, de retrouver des informations et de les mettre en lien. On cherche de visibiliser ces recherches pour que des personnes qui cherchent puissent venir effectivement trouver des réponses. Mais ce qui s'est mis en place, c'est surtout un dispositif, si tu veux, d'accueil et de soins, de prise en charge par procuration. C'est-à-dire que ces groupes, à un moment donné, il nous a paru, leur rôle, c'était de garder et de prendre soin de ce corps en attendant que le lien se refasse. Donc en attendant que les familles arrivent à retrouver leurs proches, prendre soin de ces sépultures, essayer de leur donner une identité, ça crée une forme de... on évoque la notion d'adoption, c'est pas exactement une adoption, mais c'est une forme de prise en charge par procuration, que ces groupes a activé, et ce qui est très intéressant du point de vue de la responsabilité éthique, effectivement, de ces gens qui sont amenés à s'occuper de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, donc aussi d'imaginer leur vie, d'imaginer les possibles de leur vie, et de travailler à ces niveaux-là, de faire un lien possible, de créer un lien possible.
Et finalement, de faire un peu un travail de substitution à la famille, le temps de retrouver la famille.
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire le soin dans la sépulture, le soin dans les soins des sépultures, le soin de la recherche en soi, c'est quelque chose qui est effectivement une substitution temporaire de ce qui devrait se passer dans une normalité. Je parle de ça parce que à un moment donné, et parce que je parle du groupe de la Croix-Rouge, mais tous les autres aussi, genre tous les acteurs impliqués se sont montrés impliqués dans cette démarche. Et je dis ça parce que la dame de l'état civil, à un moment donné, nous dit, elle parle de ces cas comme des morts incomplètes. Elle dit, quand quelqu'un décède, etc., il y a un processus normal qui fait qu'une morte est complète quand la famille est là, prend en charge le corps. Donc il y a un deuil au niveau psychologique, mais au niveau administratif, etc., etc. Et là, c'est des morts incomplètes. Et donc il y a une forme de prise en charge de la collectivité par rapport à ce vide qui persiste.
Oui, et donc justement par rapport, il y a eu une augmentation des morts en Méditerranée les dernières années. Donc là, en 2024, selon l'Organisation internationale pour l'immigration, il y a eu 2452 décès recensés. Donc je pense que c'est même pas le chiffre, et c'est ce qui a été recensé. Et donc, je voulais demander dans quelle mesure les politiques européennes en matière de migration, elles ont contribué peut-être à ces tragédies.
Bah, je pense que Christine, je te vois très, très envie.
Oui, si jamais tu peux aussi.
Non, mais juste pour dire, des données, deux niveaux des données. Un premier niveau de données, c'est par rapport à un travail que moi j'ai fait avec plein d'autres collègues pour la Croix-Rouge internationale qui s'appelle Counting the Dead. C'est-à-dire on a fait un travail de recherche sur les sépultures des personnes décédées en migration entre Espagne, Italie, Malte et Grèce. Et en Italie, Méditerranée centrale, l'estimation est qu'on récupère que un quart des corps des personnes qui font l'objet de naufrages et d'accidents en mer. Et qu'on n'identifie qu'un quart de ce quart. C'est-à-dire qu'on a un problème, c'est-à-dire l'identification, et un autre problème, c'est la disparition. Donc, qui pose de différents niveaux de problèmes aussi pour les familles, etc. Et donc, il y a deux niveaux, au moins, donc les négligences et des non, de responsabilité des autorités, à la fois dans les processus d'identification qui sont incomplets, qui sont un peu expéditifs, et dans cette comme la production des disparitions. Il y a des décès. Les décès sont liés à l'enfermement du border regime. Donc ça, on le sait, on peut rentrer dans les détails de ça. Il y a la négligence et l'incapacité du dispositif de récupérer les corps et pouvoir les débarquer. Et après, il y a des dysfonctionnements aussi par rapport aux sépultures, aux identifications. Par rapport à l'AIEM, oui, les chiffres de l'AIEM sont toujours un peu un défaut parce qu'ils prennent des chiffres officiels et parce qu'ils parlent de ce qu'on voit, ce qui est visibilisé. Le gros problème, c'est qu'il y a de moins en moins de visibilité avec la criminalisation des ONG en mer, etc., etc., ce qui fait que, en fait, il y a un décalage toujours plus large entre ce qu'on sait, ce qu'on nous dit et la réalité qui nous vient des familles. Je fais un exemple, le mois de janvier 2023, c'était exemplaire, c'est-à-dire que UNHCR et AIEM, parce qu'ils prenaient des informations officielles, parlaient de 49 personnes décédées à migration, alors que pour la Méditerranée centrale, donc entre la Tunisie, Libye et l'Italie, et les réseaux d'activistes, des lanceurs d'alerte, etc., pour la même période, ont, disons, recensé 416 décès ou disparitions. C'est-à-dire que si la proportion est presque la même, tu peux imaginer le chiffre réel de ça. Donc il y a aussi une façon, une violence qui est liée à la visibilité ou à l'invisibilisation de ce phénomène.
Oui, et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que ça révèle sur la place dans notre société des personnes en situation d'exil? Je crois que dans ton livre, tu parles d'anesthésie culturelle. Et je ne veux pas me tromper.
Oui, anesthésie culturelle, c'est-à-dire qu'il y a une médiatisation qui est très... comment dire? La gestion de la médiatisation de ces phénomènes est assez...
Moindre,
et il y a des flashs quand il y a un événement. Moi, je me rappelle qu'après le naufrage de Lampedusa en 2013, tout le monde disait plus jamais, never again, tu vois, c'est pas... alors que tout s'est reproduit de la même manière, sinon pire. Donc, à un moment donné, tu dis, effectivement, les traitements médiatiques de ces phénomènes est assez problématiques. Et ces problématiques pour le côté nord de la Méditerranée, c'est encore plus problématique du côté sud de la Méditerranée. Je ne sais pas si ça suffit, genre, on découvre le traitement des corps en Tunisie, c'est désastreux. Et aussi pour des problèmes techniques qu'ils ont, genre, je ne dis pas que pour des raisons de choix politiques. En Libye, on n'arrête pas de découvrir de mass graves, des fosses communes, donc il y a quand même au-delà de l'Europe qui est encore pire. Donc effectivement, c'est quelque chose de global qui est lié à une politique de gestion de frontières, de la mobilité des personnes qui est assez critiquable.
Finalement, il y a aussi un peu une déshumanisation de ces personnes. Enfin, on les désigne, on les voit totalement. Pas dans leur individualité.
Totalement. Le traitement, le fait de parler des chiffres, ça c'est un switch qui a été fait par la société civile notamment et par l'implication des familles, c'est-à-dire de chercher les noms de personnes et pas rester sur les chiffres. Ça c'est un élément effectivement fondamental. Mais cette idée de déshumanisation est donc anesthésique culturel. Bon, on parlait des traitements médiatiques, les chiffres, on entend, ouais, 14 personnes disparues, 14 personnes, ça reste comme ça à ce niveau-là, alors que l'idée c'est d'aller les nommer, à essayer de trouver les noms de ces personnes pour restituer la dignité à ces personnes et aussi des réponses aux familles. Et voilà, donc après, mais après, de manière plus générale, c'est une question, on cite Judith Butler dans les bouquins à plusieurs reprises, mais cette idée de, il y a des personnes qui ont le droit d'être pleurées et des personnes qui ne l'ont pas. Donc un peu, c'est sur ce point-là qu'on revient, c'est-à-dire le traitement de ces personnes est totalement discriminatoire par rapport à l'idée que voilà.
Eh ben, c'est un très beau mot de la fin, donc merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vouliez encore ajouter quelque chose, Karine ou Christina. Non, c'est tout bon.
Non, moi, je veux juste pour dire une chose, c'est-à-dire que le travail qu'on a fait sur la Méditerranée, parce que Christina ne veut pas parler, mais je parle à sa place. je l'introduis, comme ça vous allez suivre ce qu'elle fait. Non, c'est important, parce que et ça nous rapproche aussi de là où on est, c'est-à-dire que le travail qu'on fait sur la Méditerranée, c'est essentiel, c'est important en termes numériques, etc., on le sait, mais il y a énormément des cas de personnes qui disparaissent ou décèdent en essayant de traverser les Alpes. Il y a des cas de violence. Il y a l'effectivité du régime de frontières est visible aussi à ce niveau-là. On a des cas et des recherches qui sont menées à ce niveau-là, notamment par Christine et un réseau de collègues qui s'en occupent. Donc c'est important aussi, comme je te disais tout à l'heure, la Méditerranée centrale, c'est un peu le spot central dans lequel on s'occupe de ça. Pour les raisons qu'on a évoquées, mais il y a énormément de lieux frontières internes aussi à l'Union européenne qui sont problématiques et pour lesquels on peut faire ce travail, on doit faire ce travail et on fait ce travail. Grazie, Christina.
Eh bien, merci à vous en tout cas pour cette émission et puis pour avoir plus d'informations sur ces rencontres ou sur l'association Modus Operandi, je vous invite à consulter le site internet.
Et rendez-vous dimanche soir au Petit Angle à 19h pour une soirée donc avec Christina Del Biagio et Sarah Bachelry sur à nouveau cette question de l'accueil dans un espace frontalier, donc à Briançon plus précisément, l'accueil des personnes qui traversent, donc des vivants, mais aussi l'accueil des morts, comment on cultive la mémoire de celles et ceux qui n'arrivent pas à traverser, qui perdent la vie en traversant les montagnes.
L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie! C'est quoi?
L'apérophonie!
Quoi?
Sur Campus Grenoble!
Sur quoi?
Sur le 90.8!
Ah, sur Campus Grenoble 90.8!
Oui!